et bienvenue sur le blog Nutrition du Sportif. Aujourd'hui, je reçois Benoît, producteur de spiruline. Bonjour Benoît.
Bonjour Jean-Marc.
Alors, peux-tu te présenter aux lecteurs et aux auditeurs du blog?
Oui, bien sûr. Donc, Benoît Ginoux. Alors moi, je suis producteur de spiruline. Donc, c'est un métier qui, donc, on s'appelle en fait spiruliniers. Donc, c'est le nom de mon métier. Je suis producteur depuis 2010. Oui, je me suis installé en 2010. Donc là, je vais rentrer dans ma quatrième saison de production. Je suis installé dans un village qui s'appelle Barbantam, qui est dans les Bouches-du-Rhône, qui est pas très loin d'Avignon, et d'où je suis originaire. Voilà.
Ok. D'abord, moi j'ai des questions sur la profession de spiruliens, comme tu dis. Quel est ton parcours professionnel? Comment es-tu devenu producteur de spiruline?
Alors, comment je suis devenu producteur de spiruline? Moi, j'ai une formation universitaire en écologie aquatique. Donc, j'ai fait mes études à Montpellier notamment. Après avoir été diplômé, je suis parti au Québec. J'ai travaillé comme ingénieur dans un laboratoire. Donc, j'étudiais déjà pas la spiruline, mais les micro-organismes aquatiques en tout cas. Et puis voilà. Donc quand je suis entré en France, j'avais en fait quelques années avant, j'avais rencontré des producteurs de spiruline en France. Donc c'est quelque chose qui m'avait intéressé, quoi, sur le moment. La façon, la spiruline en elle-même, cet organisme, quoi, qui m'avait intéressé, et aussi la façon dont on la produit, qui est quand même une technique assez originale. Voilà, quand je suis rentré en France après mon expérience québécoise, j'ai eu envie de me lancer, quoi, de mettre en place une petite exploitation. Et voilà, donc en 2010, au printemps 2010, c'était parti, quoi, ça a démarré comme ça.
D'accord. Quand on veut devenir producteur de spiruline, il y a une formation, des compétences scientifiques à acquérir ou alors n'importe qui peut se lancer dans la spiruline?
Ben, il y a une formation en France qui se passe hier dans le Var, que j'ai fait moi en 2009. C'est une petite formation d'une dizaine de jours, qui voilà. Donc là, on nous apprend vraiment les bases. Surtout, on nous apprend à aller chercher l'information, quoi, pour savoir où se renseigner. Et voilà. Après, sinon, la compétence scientifique, elle peut aider, elle peut être au niveau de la biologie, de l'écologie, de la chimie, tout ça peut aider, mais c'est pas indispensable si on veut se lancer, quoi. On peut très bien se documenter. Il faut se documenter, il faut lire, il faut rencontrer d'autres spiruliniers, d'autres producteurs, et voilà. Bon, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'avais quand même ce bagage scientifique au départ qui m'a pas mal aidé.
Donc tu as parlé, tu l'as dit tout à l'heure, la spiruline c'est un organisme. Tu peux nous en dire plus, c'est quoi la spiruline alors en fait?
Alors, la spiruline, c'est un être vivant, donc c'est un micro-organisme aquatique, donc qui vit dans l'eau, et qui appartient à un groupe qui s'appelle les cyanobactéries. Voilà, ces cyanobactéries, c'est font partie des êtres les plus vieux, quoi, qui sont apparus sur Terre, qui sont apparus il y a 3 milliards et demi d'années. Voilà, c'est un groupe qui est à l'origine de toute la production d'oxygène dans notre atmosphère. Voilà, on peut, enfin, vous pouvez le voir si vous allez sur le site. Il y a quelques photos, il y a des vidéos aussi. Mais c'est un organisme qui est une forme de spirale, qui est, voilà, je sais pas trop quoi dire. Non, alors naturellement, on le trouve plutôt sur le bandeau tropical, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie aussi. Voilà, voilà ce qu'on peut dire, quoi, en tout cas pour résumer.
D'accord. Et quelles sont les étapes pour produire la spiruline? Comment on la cultive et comment elle se produit?
Alors, comment ce produit, elle est produite dans des bassins. Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle est plus à l'aise dans un climat tropical. Donc ici en France, même si je suis du côté d'Avignon, qui fait beau, il fait chaud, je la cultive quand même sous une serre. C'est une serre, alors chez moi c'est une serre en verre. J'ai construit des bassins qui font à peu près 70 mètres carrés. Il y a une roue qui agite. C'est des bassins qui ont une forme d'hippodrome, qui ont une hauteur d'eau d'une quinzaine de centimètres. L'eau est constamment agitée. Donc, une fois que nos bassins sont remplis, qu'on a notre spiruline, la récolte. Alors voilà, la récolte, elle se fait du mois d'avril au mois de novembre, on va dire, quoi, donc sur la période la plus chaude et la plus lumineuse, parce que la lumière, elle fait la photosynthèse, donc elle a besoin de pas mal de lumière et de chaleur. Et donc on la cultive d'avril à novembre. Les récoltes, ça se fait à peu près, donc on filtre l'eau. Donc la spiruline, elle est en suspension dans l'eau, et pour la récolter, on filtre cette eau, donc sur une toile de filtration qui fait à peu près 50 microns. Donc on récupère une pâte, et puis bon, après il y a tout un processus de transformation. Une fois qu'on a récupéré cette pâte qui est à travers le filtre, il faut qu'on la travaille donc d'abord qu'on la presse, puis on fait des spaghettis, ce qu'on appelle des spaghettis de spiruline, et on la fait sécher dans l'après-midi. Donc ce qu'on a récolté le matin sèche dans l'après-midi, et le soir on conditionne, et puis elle est prête à être consommée tout de suite.
D'accord. Mais vous la faites sécher à l'air libre ou sous des rayons solaires artificiels, on va dire?
Alors je la fais sécher dans mon séchoir, il chauffe uniquement à la chaleur du soleil, mais elle est quand même à l'abri de la lumière, parce qu'il faut pas que la spiruline sèche directement au rayon du soleil, parce qu'il y a des pigments en fait, notamment la chlorophylle et la phycocyanine, qui sont intéressants lorsqu'on consomme cette spiruline. Il ne faut pas les dégrader, ces pigments. Enfin, le soleil pourrait dégrader ces pigments. Voilà, donc on les sèche dans mon séchoir, il est à l'abri de la lumière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis en fait, surtout ce qui est important, il y a la chaleur du soleil, mais il y a des grands ventilateurs, quoi, qui tournent, parce que c'est vraiment c'est la ventilation plus que la chaleur presque qui permettent un séchage efficace.
D'accord. Et en parcourant ton site, donc couleurspiruline.com, j'ai vu que les conditions pour produire la spiruline étaient quand même assez strictes. Par exemple, il fallait une température stable, assez haute, l'eau pareil. Vous est-il arrivé déjà de perdre une production suite à une petite erreur de manipulation ou de calcul?
La perdre, non, mais c'est vrai que de temps en temps, il peut, par exemple, là, en début de saison, là, je vais redémarrer au mois d'avril, les températures sont pas très. C'est vrai que, en fait, si tu veux, elle a un optimum de développement quand l'eau est à 37 degrés, quand le pH est autour de 10. Quand elle a tous les sels minéraux, quand la lumière est bonne, quoi. Et c'est vrai que de temps en temps, comment dire, les conditions sont pas optimales, mais bon, on perd pas la culture, quoi. C'est simplement qu'elle se développe beaucoup moins vite. Mais bon, oui, il peut se passer. En fait, peut-être ce qui est plus risqué aussi, c'est si d'un coup l'agitation, on agite les roues, des bassins par voie orb, si il y a un problème au niveau de l'agitation, si le moteur s'arrête, que la roue ne tourne plus, là on peut tout perdre assez rapidement, parce que c'est plus, elle va prendre beaucoup de soleil, comme elle n'est pas agitée, elle remonte à la surface, et là elle va prendre énormément de soleil, et il peut y avoir une photolyse, et là on peut perdre nos bassins comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a des risques, il faut être présent. C'est vraiment une production qui demande d'être présent à 100% quoi, autour de nos bassins, quoi, tous les jours. Voilà.
D'accord. Et bon, tout le monde parlait des bienfaits de la spiruline. Justement, c'est quoi les bienfaits de la spiruline? Quel est l'intérêt par exemple, pour les sportifs?
Alors, que ce soit de façon générale, quoi, pour les sportifs ou les non-sportifs, ce qui est intéressant dans la spiruline, c'est sa haute valeur nutritionnelle, quoi. Elle a une composition qui est très riche et surtout très équilibrée. Voilà, c'est ça qui est intéressant d'abord, quoi. Après, chez les sportifs, c'est vrai qu'il y a souvent, c'est souvent le fer que les gens viennent chercher. Il y a des quantités de fer qui sont assez importantes. Et voilà, donc après, le relais nutritionniste qui m'explique que le fer participe au transport de l'oxygène dans le corps. Donc voilà, donc des gens qui sont carencés en fer ont plus de mal dans leur pratique. Et, voilà, donc, après, il n'y a pas que le fer, il y a aussi les protéines. C'est 70% de protéines, la spiruline, enfin, entre 60 et 70. Et surtout, ce sont des protéines qui contiennent tous les acides aminés essentiels. Voilà, c'est aussi les nutritionnistes disent que ce sont des protéines de très bonne qualité, donc, qui s'assimilent très bien, qui se digèrent très bien, quoi, contrairement à, ça ne c'est pas toutes les protéines qui sont de cette qualité-là. Voilà, après il y a la glycosamine aussi, qui est le pigment bleu, tout à l'heure j'en parlais un peu, c'est un pigment qui est spécifique aux cyanobactéries, et donc la spiruline en contient de grandes quantités. Et c'est un pigment, alors il y a pas mal d'attention qui est portée sur ça. Les scientifiques, quand ils s'intéressent à la spiruline, ils s'intéressent souvent à la glycosamine. Voilà, notamment apparemment, d'après mes lectures, elle aurait un rôle de tampon des lactates aussi. Vraiment, là, il y a pas mal de choses. Elle est antioxydante. Voilà.
Et donc, quels sont les différents modes de consommation? Bon, je la connais, moi, par exemple, en comprimé. Il y a aussi des brandy que l'on peut consommer comme ça. Mais tu peux nous en dire plus? Parce que je pense qu'à part les comprimés, tout le monde ne connaît pas la spiruline sous d'autres formes.
Ouais. Oui, c'est vrai que souvent on la consomme, quand on la voit, en tout cas dans les boutiques ou quoi, soit sous forme de comprimé, soit sous forme de poudre. Alors moi, c'est deux formes que je commercialise aussi, les comprimés et les poudres. Mais c'est vrai que quand on est en tant que producteur, moi j'aime bien vendre des brandy parce que si tu veux, c'est la forme la plus naturelle, la plus brute, quoi. Moi, à la fin de ma journée de récolte, c'est les brandy que j'obtiens. Donc tout à l'heure, je parlais des spaghettis de spiruline qu'on met au séchage. En fait, ces spaghettis-là, une fois qu'elles sont sèches, on les broie un petit peu et c'est directement ça qui donne les brandy. Ces brandy, alors vous pouvez aller sur le site internet, il y a des photos de ces procédés de fabrication, puis des brandy aussi, quelques idées sur comment les consommer, comment les utiliser. Il y a plein de façons, il y a des façons. La façon la plus. Ben là, en ce moment, moi, je me fais des tartines le matin avec du miel et de la spiruline. Enfin, voilà, c'est ça mon petit déjeuner.
Du miel et de la spiruline.
Voilà.
Du miel, bon, le miel, je le vois liquide. La spiruline en brandy
C'est des. Alors, ben.
mélangée, comment tu fais là? Là, ça m'intrigue.
Eh ben, simplement, on peut se faire, par exemple, dans le cas de la tartine de miel et spiruline, on se fait une tartine de miel, on étale du miel sur une tartine. Et puis on saupoudre avec les brandy de spiruline qui sont un peu craquantes. Hein. On saupoudre ça sur ma tartine et puis voilà, tout simplement quoi. Après on a juste à croquer ça quoi. Et c'est parti pour
Alors,
la journée quoi.
je connais pas du tout, j'essayerai, je te dirai si c'est si bon que ça.
Ouais.
Et, par contre, j'ai une petite question, il y a une dose maximale à ne pas dépasser parce que par exemple, si on commence à saupoudrer de brandy, comme elle est très forte, la spiruline en protéines, en fer, il n'y a pas un risque de dépasser la dose maximale?
Non, alors ben, en général, il y a pas beaucoup de risques de surdosage, quoi, à part si on prenait un paquet entier, tout de suite comme ça. Mais en tout cas, dans mon cas, quand je vends la spiruline, sur chaque paquet, il y a une étiquette, il y a indiqué les doses conseillées, quoi. Alors, ce qui est conseillé, c'est en général 3 à 5 grammes par jour. Ça fait, pour donner une idée, ça fait une ou deux cuillères à café par jour. Après, voilà, ça dépend un peu. Il y a pas si certaines personnes qui vont en prendre deux fois plus, il y en a qui en prennent deux fois moins. Bon, après ça dépend un peu. Les gens souvent s'adaptent à leur consommation, à leurs besoins. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, des sportifs qui sont en préparation de grosses, en préparation de compétition, quoi, qui vont un peu augmenter les doses, qui vont être plus autour de 5 grammes. Voire plus, quoi. J'ai des clients, après moi, c'est eux qui font comme ils veulent. Comme j'ai des clients qui en prennent jusqu'à 7 grammes par jour. Donc voilà, ça dépend des besoins qu'on a, quoi. Et de notre ressenti aussi.
Par contre, quand tu dis une ou deux cuillères à café par jour, Est-ce qu'après, le sportif, par exemple, doit modérer ses apports en protéines normaux, style 2, hein, par exemple la viande ou le poisson?
Là, honnêtement, je saurais pas répondre à cette question. Enfin, jusqu'à présent, des témoignages que j'ai eus, quoi, les gens ne modéraient pas leur consommation, ils le prenaient plus comme un complément, quoi, mais ne modéraient pas. Après, je saurais pas dire, là. Je saurais pas.
D'accord. Donc on a parlé un petit peu tout à l'heure de couleur spiruline, donc c'est ta société. Tu peux nous en dire plus sur ta société couleur spiruline? Combien d'employés vous avez? Production, c'est une production locale, j'imagine?
Ouais. Alors ben, la société a été créée, donc je le disais tout à l'heure en présentant en 2010. Donc c'est une société qui est à la fois jeune et qui commence à avoir quand même quelques années d'expérience là, parce que je vais rentrer dans ma quatrième saison. Je travaille tout seul. Je m'occupe de tout en fait, de A à Z, de la production, de l'aspect production, l'aspect conditionnement, communication, commercialisation. Donc vraiment, c'est aussi ça qui me plaisait moi dans ma démarche, c'est avoir un projet global et tenir ce projet de A à Z. Et c'est aussi une façon de pouvoir parler aux clients de façon plus facile, assez facile quoi, vu que je m'occupe de tout, voilà, comment dire,
Tu gères tout.
voilà, je gère tout et puis je maîtrise vraiment toutes les étapes quoi, on va dire. Donc ça c'est un plus quoi pour la, quand, on parle beaucoup de traçabilité en ce moment quoi, donc c'est voilà.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de producteurs en France, des petits producteurs comme toi, ou est-ce qu'il y a vraiment des grosses, plus grosses entreprises qui produisent de la spiruline également?
Alors, oui, on est quelques producteurs en France, quoi. Je ne saurais pas dire, peut-être une centaine ou quelque chose comme ça, surtout regroupés. Il y en a un peu partout dans la France, mais surtout sur le bord de méditerranéen. Alors, en général, c'est plutôt des productions comme la mienne, alors soit un peu plus petite, soit un peu plus grande, quoi, mais c'est à peu près. Des exploitations qui se ressemblent, il n'y a pas de très très grosses exploitations. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de spiruline qui vient en France, qui vient de très grosses exploitations, plutôt mais d'exploitations américaines ou indiennes ou chinoises. Mais après, voilà, au niveau de la qualité, ça n'a rien à voir, quoi, c'est pas les mêmes spiruline, quoi. Ce qu'on fait en France, que ce soit moi ou que ce soit les autres producteurs, enfin, en tout cas ceux que je connais, on a une spiruline qui est séchée à basse température, donc dans ce séchoir solaire, donc tout à l'heure j'en parlais. C'est ça qui fait vraiment la différence, quoi, parce qu'on a, si vous voulez, là, je pars dans autre chose là, mais bon, la spiruline, on a un produit qui au départ qui est extrêmement riche, et ces grosses entreprises qui sont basées à Hawaï, en Chine ou en Inde, elle sèche la spiruline à très très haute température, donc à 120 degrés. À ces températures-là, il y a toutes les vitamines qui sont détruites, il y a pas mal il y a une partie des protéines qui sont dénaturées, etc. Donc nous, c'est vraiment notre argument qualité, c'est la façon dont on sèche la spiruline à basse température. Voilà. Mais pour revenir à la question, oui, on est pas mal de producteurs en France. Il y a maintenant, même c'est une filière qui commence à être bien organisé. Il y a une fédération, c'est la Fédération des spiruliniers de France, qui prend forme, voilà, qui produit des choses intéressantes.
Tu en parlais tout à l'heure, là, tu parlais des concurrents surtout étrangers. Comment on peut faire pour différencier deux spirulines? Parce que comment savoir, par exemple, si la spiruline vient de France ou si la spiruline vient de l'étranger?
Eh bien, il faut tout simplement, au moment où on fait son achat, il faut bien se renseigner, bien lire, alors si on est dans les boutiques, essayer de lire l'étiquette, essayer de trouver la provenance, parce que en général, si c'est une production française, on met en avant sur le paquet, quoi, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on trouve de l'aspirine dans une boutique bio, parce qu'il y en a souvent dans les boutiques bio ou quoi, que c'est de la spiruline française, que c'est de la spiruline de qualité ou quoi que ce soit, quoi. Donc, parce qu'il faut avoir des spiruline de très moyenne qualité un peu partout, quoi. Mais voilà, simplement le conseil c'est ça, c'est essayer de trouver un producteur français, essayer de et voir sur les sites internet, quoi, ou dans les boutiques, quoi. C'est vrai que souvent sur les sites internet, quoi. Maintenant ça se fait pas mal. La spiruline c'est un produit qui s'envoie très bien, quoi, par la poste. Donc moi je fais mes ventes, je fais pas mal de mes ventes à travers mon site internet, quoi. La vente par correspondance ça marche bien. Donc voilà, puis c'est les clients peuvent aller voir, il y a, sur le site il y a des vidéos. Donc là vous êtes, enfin, voilà, vous pouvez être sûr de la provenance, comme ça, en achetant directement au producteur.
Et si on veut, est-ce que combien de temps se conserve la spiruline? Et quelles sont les conditions qui, les précautions à prendre pour la conserver?
Ouais, alors ça se conserve très très bien, quoi. Il y a, en général, c'est entre 1 et 2 ans, en fonction du moment de l'année où vous l'achetez, quoi. Mais ça, et en plus, bon, c'est une DLUO, donc une date limite optimale de consommation, quoi. Donc même si ça, en général, même si ça dépasse un peu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça se conserve très très bien. Si c'est conservé dans les bonnes conditions, en fait, les bonnes conditions pour la conserver, c'est à l'abri de la lumière, toujours pour cette histoire de pigments qui sont dégradés au soleil, et à l'abri de l'humidité. Donc ça, c'est important. Alors moi, les conditionnements que j'utilise, c'est des sachets agglomérés zip, donc qui sont parfaitement adaptés à la conservation. Donc vous avez un paquet, voilà, une fois qu'il est ouvert, vous pouvez vous le refermer, vous zipper, vous chassez un peu l'air qui est dedans naturellement, mais ça se conserve très très bien.
La production de la spiruline ne peut être que bio, donc je veux dire, il peut pas y avoir des produits, peut-être pas chimiques, mais des substituts pour aider à faire pousser la spiruline.
Ouais, alors c'est une production qui est, c'est un produit qui est naturel. Alors pour l'instant, il n'y a pas de label AB sur la spiruline, donc il n'y a aucun producteur en France qui est labellisé. Mais voilà, c'est un produit qui est naturel, on n'utilise pas de pesticides. Après, on la nourrit en sels minéraux, quoi. Mais voilà, quoi, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, quoi. Voilà, quoi, y a pas de, il n'y a pas de produits dangereux, il n'y a pas de pesticides,
D'accord. Et est-ce que les prix de la spiruline ont tendance à augmenter ou plutôt à se stabiliser, à diminuer, parce que vu l'offre qui s'élargit, la concurrence, est-ce que le prix de la spiruline a atteint son maximum?
Je pense que c'est des prix qui sont assez relativement stables. Hein. Moi, les tarifs n'ont pas bougé depuis que j'ai commencé. Puis les autres producteurs là qui sont installés, certains qui sont installés depuis un peu plus longtemps que moi, ont pratiqué les mêmes tarifs depuis qu'ils ont commencé. Donc non, les tarifs sont stables. Hein. Ils sont quand même stables.
Est-ce que la spiruline peut avoir des défauts, enfin, parce qu'on vante sur tous les mirets et tout ça, mais est-ce qu'il y a des contre-indications pour la spiruline?
Alors, il y en a très peu, quoi, parce que quasiment tout le monde peut manger de la spiruline. Il y en a une qui est vraiment à mettre en avant, c'est les gens qui font ce qui s'appelle l'hémochromatose. C'est des gens qui sont pas capables d'éliminer le fer. Donc en fait, comme c'est un aliment qui est très très riche en fer, enfin, voilà, les gens qui font de l'hémochromatose ne peuvent pas manger aucun aliment qui a du fer. Donc voilà, ça c'est la principale contre-indication. Après, il y a de la vitamine K, donc les gens qui sont sous traitement anticoagulant, on leur déconseille souvent. Mais bon, enfin, moi, c'est. Voilà. Il y a quelques contre-indications, quoi, mais c'est pas. Voilà, la vitamine K, en fait, du moment qu'on a une alimentation, qu'on n'a pas de, de. Du moment qu'on n'a aucune restriction alimentaire, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, c'est ça.
Lorsqu'on parle de spiruline, on a parlé des brandy, on a parlé des spiruline en jus ou en comprimé. Est-ce qu'on peut la trouver aussi, par exemple, dans des pâtes aux spiruline est-ce que ça vaut le coup de consommer la spiruline sous cette forme-là? Ou alors il vaut mieux se contenter des gélules ou un brandy.
Non, ça peut être sympa après de prendre des produits comme ça, comme les pâtes froides. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on achète des pâtes à la spiruline, on va les faire cuire. Et donc, on va perdre une partie des propriétés de la spiruline. Bon, après, moi, je les fais aussi. De temps en temps, j'en fais, je les fais moi-même, ces pâtes, là. Donc, c'est sympa parce que ça colore et puis il y a quand même cet apport en protéines, etc., quoi. Mais je dirais que c'est pas l'idéal, quoi, parce que ce qui est bien pour la spiruline, c'est de la prendre assez régulièrement. Donc c'est pour ça que moi je conseillerais plutôt les brindilles, la poudre ou les comprimés pour ceux qui veulent pas manger de brindilles, parce que ça permet d'avoir une consommation régulière. On va prendre une habitude tous les matins à prendre sa spiruline et on va pouvoir faire une cure. Tandis que si on la consomme par exemple de temps en temps en prenant par exemple les pâtes, quoi, ça va pas. Ben disons qu'on va pas tirer. Vous n'aurez pas tous les bénéfices de la spiruline en consommant simplement un plat de pâtes, même si c'est une fois par semaine.
Et donc toi tu dis que tu consommes la spiruline le matin. Donc est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est le meilleur moment de la journée pour consommer la spiruline ou alors on peut en consommer l'après-midi, le soir
Alors, on peut en consommer toute la journée, mais le moment le plus intéressant, c'est le matin. Parce que il y a ben, toutes les vitamines qui vont être disponibles pour la journée, etc. Prendre ces vitamines-là le soir, c'est pas le plus intéressant. Après, il y a pas mal de gens comme 3-5 grammes par exemple, ça peut faire 6 à 10 comprimés, parce que c'est des comprimés de 500 mg qu'on fait. Il y en a qui aiment bien partitionner, quoi, parce que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup 6 comprimés, donc il y en a qui en prennent 3 le matin, 3 le midi, donc ça peut 3-4 le matin, 3-4 le midi. Donc, voilà. Alors, moi je conseille le matin, et si on veut fractionner, le matin et le midi. C'est les deux moments, les moments les plus appropriés.
D'accord. Et donc, bon, on dit le matin, le midi, tu parles en quantité de comprimés. Comment on peut savoir les quantités qu'on doit absorber? Est-ce que, bon, tu as parlé tout à l'heure des doses maximales et des doses minimales, mais comme chaque être humain est différent, est-ce qu'il y a par exemple un tableau pour savoir les quantités que l'on désire?
Non, alors pas que je sache. En général, c'est ça ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est plus, il y a des doses conseillées qui sont 3-5 grammes. Et après, il faut essayer d'adapter ces doses par rapport à sa corpulence peut-être, à son activité surtout, à mon avis, quoi, pour des gens qui ont des pratiques, en tout cas pour les sportifs, des pratiques quand même assez régulières et intenses, quoi. Il vaut mieux être autour de 5 grammes. Pour d'autres, il vaut mieux être autour de 3 grammes. Voilà, il n'y a pas de règle. Moi, je dirais plus, voilà, essayer d'adapter à ses besoins en fonction voilà, on peut commencer doucement et dans tous les cas, ça, c'est ce qui est conseillé, c'est de commencer doucement, au moins la première semaine, par un comprimé le premier jour, puis deux comprimés le deuxième jour, etc. Monter comme ça petit à petit jusqu'à 6 comprimés, et après, en fonction de son ressenti, on peut augmenter ou rester à cette dose-là, voire diminuer. Voilà.
Et j'ai une petite question subsidiaire. Donc, par exemple, la spiruline contient beaucoup de protéines. Lorsqu'on consomme beaucoup de protéines, il est recommandé de boire beaucoup d'eau. Est-ce que cela est de même pour la spiruline?
Ben, oui, je le conseillerais aussi, du moment que c'est vrai, quoi, du moment qu'on sait qu'il y a 70% de protéines, quoi. Si c'est conseillé pour les protéines, de boire beaucoup d'eau quand on consomme beaucoup de protéines en général, oui, il faut le faire même quand on consomme de la spiruline.
Bon voilà, l'interview s'achève, Benoît. Je te remercie. Et le petit mot de la fin pour toi?
Oh, ben, oui, ben, simplement pour te remercier de t'être tourné vers moi, vers Couleur Spiruline, pour faire cette petite interview. Et aussi pour dire aux auditeurs, essayer de les renvoyer peut-être vers mon site internet pour s'ils veulent plus d'informations, parce qu'il y a tout ce que j'ai dit, des fois ça peut paraître un peu brouillon, quoi. Les choses sont mises au clair sur le site internet, sur la spiruline, sur ce qu'elle contient, ce qu'elle peut apporter, sur et notamment là on l'a pas abordé là dans cette interview, mais sur le site j'ai des témoignages de sportifs et j'ai fait des petits résumés d'études scientifiques là, qui traitent de ça, de la relation entre de l'intérêt de la spiruline pour les sportifs. Voilà.
Et c'est super, donc on peut te retrouver, donc comme tu l'as dit, sur couleurspiruline.com.
C'est ça.
Et donc on peut dire bonne chance pour la prochaine production qui va arriver, parce que là, avril, c'est la nouvelle récolte qui se prépare.
Et ça, je suis en train de préparer la nouvelle saison qui arrive. Ouais.
Ok, mais je te remercie beaucoup, Benoît.
Ben, merci Jean-Marc.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur Twitter, Facebook ou Google+. Et je vous dis à bientôt sur Nutrition et Sportif pour une prochaine interview. Bye bye!